supporter la cour.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une qu'une république bien démocratique.
www.pourunequonstituante.fr.
Bonjour, Nathalie sur Radio Doc. Parlons santé, enfin continuons de parler santé. Mais avant, et pour alimenter notre réflexion, je commencerai ma chronique par un constat, puis après par un recensement des grands projets de loi de santé. Je vous dis pas le boulot que j'ai eu pour essayer de synthétiser quand même tous ces projets de loi. Alors bien sûr, c'est exhaustif, c'est pas si complet que ça, mais on aura les grands projets. Donc, j'avais gardé, figurez-vous, un article de Mediapart de mai 2020, en plein confinement, qui me semblait intéressant. Je tire de cet article d'Alain Berthaud, qui y appelait à passer de la résilience à la résistance. Il disait « La catastrophe qui commence n'est pas une inconséquence collective ou un effet d'aveuglement des pouvoirs. » Elle ne provient pas de l'ignorance ou du climato-scepticisme de quelques-uns. Cette catastrophe matérielle est devenue un des ressorts du capitalisme contemporain, qui s'est financiarisé, numérisé et d'une certaine manière dématérialisé. Il continue et dit « La pandémie n'est pas une parenthèse qui aurait tout arrêté. » C'est au contraire un formidable accélérateur à particules politiques. Ouais, nous l'avons vu, surtout dans notre système de santé. Ça a commencé par Agnès Buzyn, ça a continué avec Olivier Véran, deux ministres de la Santé qui ont voulu nous faire avaler des couleuvres pendant cette crise sanitaire. Agnès Buzyn sera mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui et placée sous le statut de témoin assisté pour abstention volontaire de combattre un sinistre pendant la crise du Covid. Rappelons-nous qu'elle avait déclaré, pour être sans doute rassurante, que les risques de propagation du coronavirus dans la population étaient très faibles. Tant qu'à Olivier Véran, il fait son mea culpa aujourd'hui et reconnaît ses déclarations maladroites. Il confirme que la vérité, c'est que sur les masques, nous nous sommes trompés, ni plus ni moins. Il laissera, on le sait, l'hôpital dans un état catastrophique. Que de déclarations contradictoires et peu glorieuses. Ils ont toujours réponse à tous nos politiques, alors que tous étaient en droit de s'interroger, comme nous d'ailleurs, sur un virus, coronavirus, dont nous ne savions rien, enfin presque, et qui faisait des ravages. Brigitte Bourguignon remplace Olivier Véran pour aller au secours des urgences et de ces personnes de soins. Elle confirme qu'il faudra trouver des solutions pour que les Français ne soient pas privés de soins. J'en rigole. C'est à ce point. C'est qu'on se pose tous la question, et même encore aujourd'hui. Enfin, le dernier remaniement gouvernemental met en place un nouveau ministre. Depuis donc le 4 juillet dernier, François Braun est notre ministre de la Santé. Il aura à gérer la continuité de la crise Covid et la crise de la santé publique. Le pauvre. Dans l'immédiat, il propose de réguler les admissions aux urgences en coupant le flux des malades via un triage paramédical. À l'entrée des urgences ou par une régulation médicale préalable systématique via le standard téléphonique du SAMU. Pour ce faire, les effectifs d'assistants de régulation médicale seront donc renforcés pour les appels au 15. Un beau slogan est apparu, je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas si tu l'as vu. Avant de vous déplacer, chers citoyens, appelez. Comment la France, sixième économie du monde, a-t-elle pu désosser ses hôpitaux? Nous qui pouvions être fiers d'avoir le meilleur système de santé du monde jusqu'au début des années 2000. Mais tout cela était avant. Avant que s'impose l'idée que la santé devait être rentable. une marchandise qui doit répondre aux exigences capitalistes et aussi aux exigences européennes. On a réduit de façon drastique le nombre de médecins généralistes, d'infirmières, de radiologues, de spécialistes, de protection maternelle et infantile, de médecine du travail, de médecine scolaire, de médecine d'urgence, de centres périnataux, de soins de suite et de réadaptation, de soins palliatifs. C'est-à-dire là, toute la prévention, et toute cette prévention qui est cependant nécessaire, même avant le soin. Aujourd'hui, chers citoyens, bienvenue dans nos déserts médicaux. Allez, on fait une petite pause avec le chanteur Sarcloré, chanteur, auteur, interprète suisse, avec la chanson « 50 nuances de gauche ». Merci, Poupa, de nous le faire découvrir.
Hidalgo rigole dans son coin. Elle se paye une tranche de hameau. Clémentine prend son air hautain. Elle déclare « J'encule Mélenchon ». La concierge d'Alexis Corbière l'entend parler d'un air songeur. Ces étrennes de l'année dernière attendront bien des jours meilleurs. Manuel Valls cherche de l'embauche. Il fait son regard d'épagneul. Ça fait 50 nuances de gauche et direct une droite dans ta gueule. De permacultrice ou Tupperware et trop des coloniales intersectionnelles se disputent le titre éphémère. Non mixte antipatriarcat rebelle. Montebourg en slip tricolore relocalise le camembert. La CGT n'est pas d'accord, tellement qu'ils aiment le nucléaire. Où y'a de l'OGM, y'a de la fauche. 15 écolos pour une battle. Ça fait 50 nuances de gauche et direct une droite dans ta gueule. En cherchant sous la poulamite de socialistes, les anards ont mis des termites au siège du parti communiste. Concours l'épine de la machine à perdre. On vous prépare un gros événement pour trois Taubira chez la paire. Gros rabais sur le chevènement. De l'autre côté, c'est la débauche. La fille du borgne est pas bégueule. Ça fait 50 nuances de gauche et direct une droite dans ta gueule. Y'en a pas 1% et pourtant ils insistent, les communistes. Oh, y'en a pas 1% et pourtant ils insistent, les communistes. De l'autre côté c'est la débauche. La fille du borgne n'est pas bégale. Ça fait 50 nuances de gauche et direct une droite dans ta gueule.
Je vous avais promis un point sur les dernières années donc de nos projets de loi par rapport à la santé. Et bien sûr, je vais commencer aussi par vous parler des compétences de l'Union européenne dans ce domaine et de l'organisation du financement des soins, et qui sont en principe limitées par l'Europe. C'est un choix opéré dès la signature du traité de Rome en 1957, et réitéré ensuite à plusieurs reprises. Il faudra attendre 1992 et le traité de Maastricht pour qu'un article soit consacré à la santé publique. Alors je vous le dis, je ne reprends pas les articles ni le point des traités, mais si vous êtes curieux, si vous voulez aller voir, c'est l'article 129. Qui limitait au strict minimum donc l'intervention de l'Europe sur les systèmes de soins dans chaque pays, avec plus ou moins de clarté. Parce que moi j'ai essayé de lire, mais j'avoue qu'il faut encore que je décode. Les compétences communautaires dans ce secteur, normalement, elles sont énumérées, mais rien n'est très précis. Donc la brèche est ouverte. C'est tout ce que je me suis dit, mais je vais continuer.
Mais enfin, je rajoute juste quelque chose, c'est que quand même, au titre de la mise en concurrence du service public dans tous les cas, le traité de Maastricht a été très clair, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avantager le service public par rapport au privé.
Sans doute.
Ah, ça, j'en suis sûr, puisqu'il n'y a que dans, les services publics régaliens, c'est-à-dire la police, la justice, où on n'est pas obligé de mettre en concurrence. Mais par contre, tous les autres services publics, dont la santé, doit être mis en concurrence. On n'a surtout pas le droit d'aider plus le service public que
le service privé.
Voilà.
Je pense que j'en reparle un tout petit peu après. Voilà. La maîtrise des dépenses publiques de santé n'est pas un sujet nouveau dans le cadre européen, mais il est resté longtemps très général et peu prescriptif. Les grandes orientations des politiques économiques appelées les GOPE, adoptées par le Conseil économique et financier qui s'appelle l'ECOFIN, incitaient déjà sur les États membres à réformer leur système de santé dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance. Donc là, c'est en 1997. C'est pour ça que je suis remontée donc sur les grands projets à partir de 2000.
Alors, je précise juste pour les auditrices et auditeurs, c'est que le pacte de stabilité et de croissance, c'est ce fameux 3% qu'il ne faut pas dépasser au niveau du déficit.
Voilà. Hein, on parle plutôt chiffres, d'ailleurs.
Voilà, on ne parle que chiffres. C'est l'Europe du pognon.
Voilà. Une méthode normalement non contraignante est fondée sur le volontariat des États membres. Là, c'est de la diplomatie. Hein. Beau projet et plus ou moins hypocrite que d'annoncer la santé comme compétence nationale. Car avec par la suite une proposition des politiques économiques de 2010 à 2014, qui incite alors les pays européens à renforcer leur réforme des retraites et des soins de santé, ainsi qu'à veiller à ce que ces dépenses soient financièrement soutenables, socialement adaptées et accessibles, d'où les 3%. Les systèmes de santé sont donc entrés dans une nouvelle ère, l'ère européenne. Les services de santé sont soumis à une pression particulière en termes de coûts et de résultats, car ils sont perçus comme appartenant au secteur des dépenses publiques, au même titre d'ailleurs que l'éducation, le logement social ou encore les retraites. Au sein du titre 15 de la Constitution du 4 octobre 1958 intitulé « De l'Union européenne », l'article 88-1 prévoit que « la République participe aux communautés européennes et à l'Union européenne » constitués d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont institués, d'exercer en commun certaines de leurs compétences. Blablabla, compliqué, mais voici donc une double exigence constitutionnelle, chers citoyens. Nos droits internes français et les directives de l'Union européenne doivent être respectés, puisque nous avons signé des règlements, des traités avec l'Union européenne. Alors, on répond auxquels ? Aux nôtres ? À nos besoins ? À celles de l'Union européenne ? À celles d'autres pays ? Heureusement, nous avons quand même le Conseil constitutionnel qui contrôle les lois de transposition des directives européennes, qui doivent s'adapter à notre droit interne, garantissant aux Français la protection par le juge constitutionnel de certaines normes spécifiques à l'ordre juridique français. Ah oui, on est quand même protégé par ça ? Là, c'est mieux pour comprendre ce qu'il se passe avec tous nos textes de loi santé. Car chers citoyens, citoyennes, nous sommes en droit de bien comprendre ce que nos gouvernements élus par nous, décident de quoi au sein de l'Europe. Revenons sur nos grandes lois de santé depuis une vingtaine d'années. J'ai retenu les lois essentielles, celles qui nous concernent plus directement. Donc la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi Kouchner, j'en avais parlé la dernière fois, sous le gouvernement de M. Chirac. Renforcement des droits des malades, Accès direct du patient à son dossier médical, c'est important finalement. Liberté de choix du praticien et de l'établissement. On parle alors de démocratie sanitaire, figurez-vous. Des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge de leur représentation dans le système de santé. Apparition, figurez-vous, des comités de défense de nos hôpitaux. Tiens, tiens. Puis, la loi du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale, modification du régime d'indemnisation des infections nosocomiales graves et dérogation à l'obligation d'assurance pour les établissements publics de santé. Alors, j'ai retenu celle-là parce que maintenant, vous signez beaucoup de papiers avant de vous faire opérer par rapport à cette assurance. Parce que tout le monde veut se dédouaner d'un problème que vous pourriez avoir lors de votre opération intervention médicale. Voilà. La loi du 21 juillet 2009 porte sur la réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire, les fameux HPST. Loi faite sous le gouvernement Sarkozy, avec la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. Création des agences régionales de santé. Nous y sommes à la création des ARS. Donc, c'est pas vieux, hein, ce gros centre qui ont quand même, soi-disant beaucoup de pouvoir, ça je ne sais pas, je m'interroge encore là-dessus, mais en tous les cas, sont nommés par nos gouvernements et ces ARS.
Ils ont le pouvoir d'appliquer ce que décide le gouvernement.
Le gouvernement. Voilà. Voilà, exactement.
Et, et surtout, je sais pas, je vais peut-être anticiper ce que tu vas dire, mais dans cette loi, il y a la tarification à l'acte.
J'ai pas précisé.
Qui est le truc le plus dramatique qui soit arrivé. C'est-à-dire que on donne une notion de rentabilité à la santé.
À la santé, oui.
Même si les sources de la crise de l'hôpital, des hôpitaux en France est un peu précédent, mais on peut dire que le virage, c'est cette loi de 2009, c'est ça ?
2009, du 21 juillet 2009. Et c'est vrai qu'en plus, normalement, donc les ARS sont mises en place là pour renforcer le pilotage territorial du système de santé. Ça, j'adore. C'est-à-dire qu'on avait déjà dans l'idée de réduire, en fait, la France de tous ces petits hôpitaux de proximité, disons-le, pour pouvoir reporter le tout sur des grosses structures. Donc déjà, il y avait une idée derrière la tête, parce que les hôpitaux publics, en fait, comme tu le disais tout à l'heure, se retrouvent finalement avec un point d'égalité avec le privé. C'est à partir, on va dire, de 2009 qu'on le voit vraiment. Donc, tant que les hôpitaux publics, que les cliniques et les professionnels libéraux sont à peu près à la même enseigne. Voilà, à relire tous ces textes de loi parce qu'ils sont compliqués. Même moi, j'avoue qu'il y a des phrases que je n'ai même pas.
Les textes de loi sont volontairement compliqués. C'est pour pas qu'on les comprenne.
Ouais, voilà,
par contre, il y a une chose qu'il va falloir que je vérifie parce que dans la loi Kouchner, il y avait quand même un truc qui est précédente.
Hein, oui.
Qui disait qu'on était libre du choix de son praticien.
Oui.
Et dans la loi de 2009 apparaît également le médecin traitant.
Oui. Ah, ça, c'est le changement. Alors, attention.
Est-ce qu'on a abrogé la loi Kouchner? Parce que dans ce cas-là, moi, je ne suis pas avocat, mais je suis très vicelard. Et donc, si la loi Kouchner n'a pas été abrogée, on peut choisir le médecin qu'on veut et on n'aura pas de remboursement moins bon, puisque en invoquant la loi Kouchner.
Voilà. Eh bien, alors, écoute, je me suis posé la question, j'ai essayé de relire, et en fait, non, elle n'est pas abrogée, la loi Kouchner. Mais le problème, c'est qu'on a associé les lois du Code de la Sécurité sociale. Et qu'en fait, je ne sais pas, et je n'ai toujours pas compris comment ça s'adapte. Mais on m'a donné le nom de quelqu'un qui pourrait peut-être me renseigner. Je n'ai pas encore pris le temps de le faire, mais j'espère pouvoir répondre à ma question et à ta question.
Oui. Parce que je me souviens très bien que dans la Constitution française, dont on parle en principe dans émission, il est bien précisé que quand il s'agit de sécurité sociale, c'est le Sénat qui doit l'emporter sur l'Assemblée nationale. Vous savez, comme c'est l'Assemblée des territoires, la santé, ça fait partie de ça. Donc c'est intéressant.
C'est intéressant d'autant plus que maintenant, il y a aussi l'Europe qui a son mot à dire et qui
s'impose. La loi de 2009 est une conséquence directe
avec l'Europe. On ne nous le dit pas clairement.
C'est la mise en place des non pas, comme tu l'as très dit très diplomatiquement, qui ne sont pas des mesures contraignantes, mais oui. On vous invite à.
Oui.
Donc,
voilà. Donc, répartition territoriale des libéraux aussi. Ça. Schéma régional non obligatoire pour l'installation des médecins. Ça, c'est l'Ordre des médecins qui avait fait cette demande et, bien sûr, on les a écoutés, en sachant que beaucoup de députés sont quand même médecins. Favorisation des maisons médicales pour limiter le recours excessif aux urgences hospitalières. Nous commençons donc, en 2009, à parler des urgences hospitalières qui sont encombrées. D'ailleurs, on se souvient aussi, alors je ne sais plus, tu te souviens peut-être de la date où il y avait eu tant de morts lors de la canicule.
C'était précédent à ça.
Voilà.
Parce que c'était pas Roselyne Bachelot qui était ministre.
Non,
comment il s'appelait, monsieur Polo Lacoste, là, qui avait fait scandale, puisqu'en pleine canicule, avec les personnes âgées qui mouraient, il avait fait une intervention à la télé en Polo
Lacoste.
Et
déjà, on était, c'était pas 96?
C'est peut-être ça.
Ouais. Bon, peu importe, je reviendrai quand même dessus de toute façon lors de mes prochaines chroniques. Donc, sur la loi du 21 juillet 2009, quoi vous dire d'autre ? Ah si, une réorganisation des hôpitaux publics. Réorganisation du statut des établissements. Et c'est là qu'on va séparer les grosses structures, les CHU, les CHR, les hôpitaux de proximité. Renforcement du pouvoir et de l'autonomie du directeur dans ces structures. Voilà.
Ah voilà, c'est 2006, la canicule mortelle.
Ah, 2006, tu vois, alors
donc,
j'étais vraiment plus en arrière. D'accord, 2006. Hein. Donc, vous voyez, on était déjà avec aussi un problème de personnel, un problème dans les urgences, hein, un problème de gestion des hôpitaux. La loi du 26 juillet 2016 de modernisation du système de santé par Marisol Touraine sous le gouvernement Hollande a promis la réorganisation sanitaire et du parcours de soins. Donc là, on arrive au tiers payant généralisé, à la création d'un système national des données de santé. Donc là, on commence à remettre aussi en place un rôle important à la sécurité sociale pour mieux gérer les personnes, quoi. Extension des compétences pour certaines professions paramédicales. Donc, on accorde plus de soins aux sages-femmes, aux manipulateurs radio, aux masseurs-kinés et nouveau statut pour les assistants dentaires. Voilà. Bon, ça, c'est surtout pour le personnel médical. On commence à se rendre compte qu'il faut peut-être déléguer certains soins à des paramédicaux, tout simplement. Enfin, c'est comme ça que je le résume. Hein. Voilà. La stratégie nationale de santé de 2018 à 2022, définie par le gouvernement avec Madame Buzyn, ministre de la Santé, elle se fonde sur l'analyse dressée par le Haut Conseil de la Santé publique sur l'état de santé de la population et sur les stratégies d'action envisageables. Alors, oui, il y avait eu ce grand projet ce qu'on appelait la stratégie d'action de la santé publique. Et ça comportait donc 4 axes, j'ai été relire un petit peu tout ça. Donc mettre en place une politique de promotion de la santé, voilà, donc on nous parlait encore de prévention, donc incluant donc cette prévention dans tous les milieux et tout au long de notre vie. Chers citoyens, lutter contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé pour garantir une meilleure qualité et une meilleure pertinence des prises en charge. Donc là, c'était en 2016. Alors depuis, de beaux textes, hein, vous pouvez aller les voir, hein, vous pouvez aller relire tout ça, les 4 axes, hein, donc sur cette promotion de la santé, sur cette politique de prévention, on peut les relire. Hein,
dans le même temps, je tiens à souligner, puisque c'était pas dans des lois sur la santé, mais c'était une loi sur le travail.
Oui, parce qu'il y avait la...
On a supprimé l'obligation des visites médicales par des médecins. Puisque vous savez que dans la médecine du travail, on devait voir un médecin une fois par an, normalement. Eh bien, dans cette même période, on a désormais, on peut voir une infirmière suffit.
Voilà. Pour l'éducation nationale, c'est pareil.
Voilà. Hein. Mais avant, il suffit qu'on ait vu une infirmière.
C'est bon,
y a pas de problème.
Santé. Mais nous sommes en bonne santé. Enfin, on est costauds, nous, les Français.
Vu les visites médicales, je parle de mon expérience personnelle que j'ai pu avoir avec la médecine du travail. Ça change pas grand-chose pour moi, hein, parce que tous les médecins que j'ai vus, quand on lui signale un truc, mais ça va passer.
Voilà, juste aller un petit Doliprane.
Voilà.
Un petit peu de paracétamol, pardon. Donc, j'en suis à la cinquième loi essentielle, on va dire, de tous ces projets de loi santé depuis 2002. Donc là, j'arrive à la loi du 24 juillet 2019, relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Modification de l'accès aux études médicales pharmaceutiques, suppression du numerus clausus. Donc là, on commence à regarder la formation des médecins. On commence peut-être même à paniquer parce qu'on se rend compte du manque de médecins et on commence à apercevoir les grands déserts médicaux en France. Donc voilà, on commence. Donc la suppression du numerus clausus, ça avait fait parler et couler pas mal d'encre. Révision des contrats d'engagement de services publics aussi, projet territorial de santé, apparition des télésoins dans nos textes régaliens, ça apparaît, donc la télé
médecine
avec la téléconsultation. Mais nous avons eu aussi, hein, donc avec Madame Buzyn, en démarrant jusqu'à Monsieur Véran, ce grand projet de loi Ségur, le Ségur de la santé, qui a été promulgué le 26 avril 2021. Donc, et avec Monsieur Véran, on en parlait déjà sur Madame Buzyn, mais ça a été vraiment confirmé, ce grand projet de loi Ségur, qui n'est pas clair déjà pour tout le monde, mais bon, par Monsieur Véran, ça a été confirmé le 26 avril 2021. Donc, cette loi traite des professions paramédicales, prévoit de rénover la gouvernance des hôpitaux, permet de déployer les services d'accès aux soins, les SAS, parce qu'on est très bon pour les sigles dans ce texte de loi. Moi, il faudra qu'on me donne un dictionnaire pour me les expliquer. Ainsi que la plateforme Mon Parcours Handicap. Donc là, vous pouvez compter, cher...
Qui a déjà changé, qui s'appelle maintenant Mon Parcours Santé.
Mon Parcours Santé. Mais Mon Parcours Handicap, au démarrage, concernait que les personnes handicapées.
Oui, bien sûr.
Alors, vous aviez une carte d'handicapé, et là, à quoi pouvez-vous prétendre ? Quel soutien en plus des soins pouviez-vous avoir ? On regroupe tout ça, parce qu'attention, on est aussi parallèlement avec les projets de loi de la sécurité sociale. Parce que nous, on ne les lit pas tellement, ces projets de loi de la sécurité sociale, mais elles évoluent en même temps. Donc, je ne vous en parle pas là, je vous parle directement de ce qui nous concerne. Donc, sans compter, excusez-moi, depuis le Covid, la prime santé pour certains personnels, parce que ce n'est pas pour tout le monde la prime santé, alors que tout le monde a quand même donné beaucoup entre 2020 et 2021, au moment de la grosse période Covid. Dite prime santé. La prime santé, 183 euros. Hein. Voilà. En sort, donc, de ce projet Ségur et de tout ce qui nous arrive, pauvre pays, on sort une loi 2021-502 du 26 avril 2021, vous pouvez aller la lire, visant à améliorer le système de santé. Encore, oui, par la confiance et la simplification. Ah oui, on est content de l'apprendre. Et depuis, changement de ministre, changement de gouvernement. Donc, Monsieur Braun, médecin urgentiste, attention, il va s'occuper de nous, hein, est arrivé donc, je crois, le 4 juillet. Et il travaille donc avec le gouvernement sur un projet pour la réforme du système de santé. Des retraites, figurez-vous, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ça y est, on est dans un pactage là. Bon, je vous ai donc signalé ces 5 grands textes de loi en 20 ans. En 20 ans. Bien sûr, vous pensez qu'il y a eu la sécurité sociale, je vois Poupa, tu bailles, je sais, c'est un peu ennuyeux. Mais attendons de voir la suite, l'évolution des prochains projets de loi de santé. Et bien sûr, pour l'instant, ils sont loin de nous satisfaire. Et certes, nous nous sentons mal soignés, en tous les cas en Tarn-et-Garonne. Nous perdons les maternités, nous perdons les urgences de nuit. Alors, il est où le besoin du territoire ? J'espère quand même que je n'ai pas été trop ennuyeuse. Mais il est important de reprendre ces grandes lois, ces grands projets, car c'est tout ça qui est nécessaire pour nous défendre, pour savoir à quoi nous avons droit, pour protéger notre santé. Et c'est ce que nous voulons faire avec l'Association pour une constituante, nous faire connaître nos droits. La semaine prochaine, figurez-vous, je recevrai Monsieur Prévedello, conseiller communautaire de Terre de Confluence, donc notre communauté de communes qui regroupe quand même en Tarn-et-Garonne 22 communes, et qui a été nommé donc conseiller pour la désertification médicale et la santé sur notre territoire. Je le remercie vraiment d'avoir répondu présent à notre prochaine émission. Et il est donc également maire de Saint-Porquier. Avant de vous dire merci de m'avoir écouté.
Oui, et avant, je veux juste faire une correction. J'ai dit 2006, c'est 2003, la canicule.
La canicule était de 2003.
Et le ministre, c'était Jean-François Mattei.
Oui, canicule 2003, 2022 aussi, nous aurons une canicule. Oui, on devrait noter les années de canicule.
Là-dessus, la seule chose que je voudrais préciser, c'est que pour une fois, l'expérience a servi, puisque alors que la canicule 2003 a fait en surmortalité... C'est 15 000 morts. En surmortalité, c'est 15 000 morts par rapport aux années précédentes, alors que cette année, ça n'a pas du tout été le cas. Et donc, il faut remarquer que les services de santé ont été efficaces.
Efficaces. Allez, nous soyons positifs.
Bah oui.
Voilà. Alors, avant de vous présenter la chanson, je voulais quand même aussi vous rappeler un collectif, les Assemblées Cinétoyennes de Moissac, organise dans le cadre de la Journée nationale le jour de la nuit, avec France Nature Environnement et Agir pour la l'environnement, organise samedi 15 octobre, donc samedi prochain, une soirée. Donc à partir de 20h, rendez-vous à l'abbaye Saint-Pierre de Moissac, je lis. Donc pour une présentation et une explication, en marche après vers le jardin Patou. Donc devant l'abbaye, après une marche vers le jardin Patus, avec conte, observation du ciel si c'est possible, vous expliquer un petit peu ce qu'est ce projet contre les pollutions lumineuses, enfin pas un projet, le texte de loi qui va être appliqué contre les pollutions lumineuses. Voilà, je tenais samedi 15 octobre, 20h, devant l'abbaye Saint-Pierre de Moissac. Et là, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine avec une chanson qui va nous servir un peu de thème de prévention sur la chanson S.I.D.A. Donc, Le Larron. Merci Poupa encore de nous avoir sorti de tes archives une telle chanson. Je vous laisse. Au revoir.
Mesdames et messieurs, que je vous sorte le grand jeu. Tout le monde peut jouer, tout le monde peut gagner. Mademoiselle, vous ne semblez pas concernée. C'est une erreur, je sais qu'il y a eu par le passé des rumeurs qui disaient que c'était un jeu pipé réservé aux PD, aux camés, aux prostituées et quelques autres irresponsables. Mademoiselle, ne croyez pas de tels ragots. Il est parfois difficile de reconnaître illico le porteur d'un ticket gagnant, surtout lorsqu'il s'agit de votre amant ou de la femme de votre amant ou de l'amant de la femme de votre amant. À ce petit jeu-là, tout le monde peut être gagnant. Allez, S I D A. C'est un jeu facile et pas cher. Y'a qu'à tirer en laissant le hasard faire. Allez, S I D A. 14 000 nouveaux gagnants chaque jour. À qui le tour? À quand ton tour? Allez, S I D A. Tout le monde peut gagner, ne l'oublie pas. Suffit de tenter sa chance une seule fois. patient, mon petit monsieur. Je vois que mon jeu vous intéresse. Vous rêvez de belles histoires de fesses, d'un peu de cul, d'un peu de folie, mais des capotes, jamais de la vie, non. Ça tue l'amour à ce qu'on dit. Et de retour au lit conjugal, surtout rien dire non, elle le prendrait mal. Félicitations mon petit monsieur, vous paraissez très doué pour ce jeu. Allez, S, I, D, A. C'est un jeu facile et pas cher, y'a qu'à tirer en laissant le hasard faire. Allez, S, I, D, A. 14 000 nouveaux gagnants chaque jour. À qui le tour? À quand ton tour? Allez, S, I, D, A. Tout le monde peut gagner, ne l'oublie pas. Suffit de tenter sa chance une seule fois. La mise à prix, puisqu'il faut qu'on en parle, est somme toute assez minimale. Quelques années de votre vie, enfin, seulement celles qui restent à partir d'aujourd'hui. Je prends aussi votre insouciance et le bonheur de future naissance, mais j'offre en prime à tous les gagnants, sauf aux Africains évidemment, tous les plaisirs d'une trithérapie. Premier baiser, premier servi. Allez, S, I, D, A. C'est un jeu facile et pas cher, y'a qu'à tirer en laissant le hasard faire. Allez, S, I, D, A. 14 000 nouveaux gagnants chaque jour. À qui le tour? À quand ton tour? Allez, S, I, D, A.